Alors, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, le docteur Nicolas Dupré. Il est neurologue, clinicien, chercheur des maladies neuromusculaires et neurogénétiques à l'hôpital de l'Enfant Jésus et professeur associé à la faculté de médecine de l'Université Laval. Alors, je vais vous laisser entre les mains du docteur et je vous mets sur le mode silence et à la suite de la conférence, vous pourrez poser vos questions. Merci beaucoup. À tantôt, docteur, à vous. Vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là. Tout le monde m'entend?
Je vous laisse la parole.
Tous les participants ont été mis en mode silence.
Donc, bonsoir à tous. Je me rends compte qu'il y a toujours de plus en plus de participants à ces conférences téléphoniques. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés aux maladies du neurone moteur, en fait, qui est un sous-type de maladie neurologique. Et souhaite en savoir davantage. Je vais essayer d'être le plus, disons, de vulgariser le plus possible les notions parce que c'est souvent des termes abstraits que les gens ont entendus parfois pour la première fois. Alors, je peux vous vulgariser ça un petit peu. Je pense que j'ai pas trop de difficultés pour la vulgarisation parce que mon garçon m'a invité en classe à présenter à des cinquième année la semaine dernière et je leur ai expliqué un peu ce que c'était le cerveau. Et il y en a déjà qui connaissaient plusieurs maladies du cerveau, alors je me suis pas trop mal débrouillé. Donc je me dis que je devrais être capable de faire le travail un peu avec vous ce soir. Donc, les premiers neurologues qui ont classifié les maladies, c'était des neurologues du 19e siècle. Et un de ces grands neurologues-là, il s'appelait le docteur Charcot. Donc, le premier nom qu'on a donné à la sclérose latérale amyotrophique, c'est la maladie de Charcot. Et Charcot a donné l'autre nom aussi, qui est un nom plus pathologique. Hein. Quand on parle de sclérose latérale amyotrophique, c'est un nom pathologique. Donc, quand Charcot, à l'époque, il n'y avait pas de génétique, il n'y avait pas de test moléculaire, il n'y avait pas de résonance magnétique. Donc, pour décrire une maladie, ben, il fallait suivre un patient pendant un certain nombre d'années, attendre que le patient décède, puis faire l'autopsie par un de ses étudiants ou un de ses élèves, puis éventuellement essayer de regarder en détail comment était son système nerveux. Charcot s'était rendu que les patients qui présentaient des faiblesses et qui présentaient le phénotype de la maladie de Charcot avaient ce qu'on appelait une sclérose latérale. Donc, les portions latérales de la moelle épinière, hein, qui est l'espèce de gros fil électrique qui relie le cerveau au nerf, hein, qui est situé dans la colonne, derrière la colonne vertébrale. Donc, ce qu'on appelle la moelle épinière, ben, dans les portions latérales de la moelle épinière, il y avait des phénomènes anormaux et qu'on appelait à l'époque sclérose. Alors, à un moment donné, on a parlé de sclérose en plaque, hein, quand ça atteignait le cerveau, puis c'était en plaque. Puis quand c'était une sclérose dans laquelle il n'y avait pas de plaque, puis c'était simplement localisé dans les portions latérales, on a parlé de sclérose latérale. Pour identifier ce qu'on voyait sur les moelles épinières des patients. Charcot avait ajouté à ça le terme amyotrophie. Hein, amyotrophie, ça veut dire que il y a une perte musculaire. Amyotrophie, c'était pour distinguer ça des dystrophies. Alors, les dystrophies, c'était des maladies des muscles, puis l'amyotrophie, c'était une perte des muscles, mais secondaire à une perte des nerfs. Donc, ce que Charcot avait dit, c'est que, dans le fond, la maladie de Charcot était causée par la perte du neurone qui part du cerveau puis qui va jusqu'à la moelle épinière, puis du neurone qui part de la moelle épinière puis qui s'en va jusqu'aux muscles. Puis quand ces neurones-là meurent, ben, éventuellement, ça cause de l'amyotrophie. Donc, ça, c'est la définition qu'on a de la sclérose latérale amyotrophique. Hein, c'est la forme la plus fréquente de maladie du neurone moteur. C'est une maladie qui est bien définie, qui peut évidemment que les gens d'entre vous connaissent, qui cause des troubles respiratoires, qui cause des difficultés de déglutition, qui donne la difficulté des troubles de motricité, alors les fasciculations. Alors ça, c'est des phénomènes qu'on voit dans la sclérose latérale amyotrophique. Maintenant, il y a la sclérose latérale primaire. Alors, quand les gens ont parlé de cette forme-là, dans le fond, ils ont voulu la distinguer de la sclérose latérale amyotrophique. Alors, vous auriez compris que dans la sclérose, le terme sclérose latérale primaire, il n'y a pas le terme amyotrophie. Donc, les gens qui ont la sclérose latérale primaire ne vont pas avoir la perte du neurone qui part de la moelle épinière puis qui va jusque dans le muscle et donc n'auront pas la perte musculaire qu'on va voir chez les patients qui ont la sclérose latérale amyotrophique. Donc la grande distinction entre les deux, c'est que les gens qui ont la sclérose latérale amyotrophique vont perdre leurs muscles avec le temps, vont avoir de l'atrophie et des fasciculations, alors que les gens qui ont la sclérose latérale primaire, en tout cas dans les premières années d'évolution, ne présenteront pas d'atrophie des muscles. Et donc, les gens qui ont la sclérose latérale primaire n'auront pas d'atteinte au départ respiratoire, vont avoir des difficultés de déglutition, mais moins marquées. Ils vont avoir parfois au départ un handicap relié plus à de la spasticité ou de la raideur musculaire, mais pas comme tel à de la faiblesse. Puis avec le temps, c'est sûr que les patients deviennent raides et faibles, et ça, éventuellement, ça va causer des handicaps significatifs. L'autre chose, c'est que dans la sclérose latérale amyotrophique, les gens, les symptômes peuvent, ça peut commencer au niveau de la langue, ça peut commencer au niveau d'une main, au niveau d'une épaule, au niveau d'une jambe, puis éventuellement, ça va se diffuser. Alors que dans la sclérose latérale primaire, les tout premiers symptômes commencent normalement dans une jambe, puis après ça, ça propage à l'autre jambe, puis ensuite, ça monte au niveau des bras, puis après, ça peut finir par atteindre les fonctions de déglutition. Donc, les patients peuvent avoir en fin de route des difficultés à avaler, mais ils vont pas présenter des problèmes respiratoires importants que vont présenter éventuellement les patients qui ont la sclérose latérale amyotrophique. Donc, quand ça, c'est pour un peu la définition des maladies, puis c'est pour aussi la façon dont les maladies évoluent avec le temps. Donc, vous comprendrez que comme les gens qui ont la sclérose latérale primaire ne vont pas avoir d'atteinte respiratoire importante, ben c'est sûr que le pronostic aussi des gens qui ont la sclérose latérale primaire va être meilleur. Donc, les gens vont vivre beaucoup plus longtemps en moyenne que les patients qui ont la sclérose latérale amyotrophique. Donc, alors ça, il y a des patients qui ont la sclérose latérale primaire et que ça va rester toujours la sclérose latérale primaire pendant toute l'évolution de la maladie. Mais il y a des patients, par contre, qui vont commencer avec une forme de sclérose latérale primaire, puis éventuellement vont évoluer vers la sclérose latérale amyotrophique. Puis ça peut prendre quelques années ou ça peut prendre même des fois une décennie où il y a des patients qui vont évoluer beaucoup plus lentement. Et une des raisons pour laquelle certains patients qui ont la sclérose latérale amyotrophique ont des pronostics plus longs, parfois l'explication, c'est qu'ils ont eu une forme à prédominance primaire au départ, puis éventuellement, ils vont avoir évolué vers une forme de sclérose latérale amyotrophique. Donc, il y en a qui évoluent uniquement dans la sclérose primaire, puis qui vont vivre beaucoup plus longtemps, puis d'autres qui évoluent vers la SLA, puis eux, à ce moment-là, les pronostics vont se rapprocher davantage de la SLA. Donc, ça, c'est un petit peu pour la description des maladies. Maintenant, les causes de la SLA, en dehors des formes génétiques, là, qui forment, mettons, peut-être 5 à 10 % dépendant des populations des formes de SLA, ben, dans la sclérose latérale primaire, dans la définition de la famille, de la maladie, on dit que c'est pas héréditaire. Cependant, nous, la région, au nord-ouest de Québec, on a décrit deux familles dans lesquelles on avait une forme de sclérose latérale primaire, mais héréditaire. Et donc, on est en train d'étudier cette maladie-là. Et lorsqu'on pourra identifier le gène responsable, bien, ça pourra peut-être nous donner des indices par rapport aux patients qui n'ont pas d'histoire familiale, mais qui ont la sclérose latérale primaire. Donc, on pense qu'il y a quand même des formes génétiques de cette maladie-là, un peu comme il y a des formes génétiques de sclérose latérale amyotrophique. Alors, donc ça, c'est les causes, c'est probablement, il y a probablement pas mal de causes génétiques sous-jacentes, là, même si c'est pas tous les gens qui ont les mauvais gènes qui vont développer la maladie. Il y en a qui la développeront pas parce qu'ils vont être protégés par d'autres gènes ou qui n'auront pas été exposés à certains facteurs environnementaux. Donc, il n'y a pas que la génétique là-dedans, mais c'est sûr que la génétique pourra en expliquer une certaine partie. C'est de loin de là, je ne veux pas dire du tout que les patients ou les gens qui ont dans leur famille des cas de sclérose latérale primaire ou amyotrophique doivent s'inquiéter. C'est simplement que c'est rarement génétique de façon importante, mais il y a souvent un petit facteur génétique qui se cache dans les familles, puis mais il ne s'exprime pas nécessairement chez tous les individus. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a peut-être un 5% de familles dans lesquelles la contribution génétique est très importante, puis le 95%, ben la contribution génétique est peu ou pas importante, puis elle ne va pas s'exprimer chez la plupart des gens qui sont... Donc, c'est un petit peu la même chose entre la sclérose latérale primaire et la sclérose latérale amyotrophique pour ce qui est de la composante génétique. Donc, ça existe, mais c'est pertinent seulement dans une minorité de cas. C'est ça. Puis, pour ce qui est des traitements maintenant, la sclérose latérale amyotrophique, on sait que très tôt, les patients vont avoir besoin d'une aide respiratoire. Maintenant, on a de plus en plus de techniques qui existent pour aider les patients à ce niveau-là, aussi pour l'alimentation. Les patients qui ont la sclérose latérale primaire, ils vont se plaindre davantage de spasmes. Alors, il y a des patients, par exemple, auxquels on pourra donner des médicaments comme du Neurontin ou du Baclofen pour diminuer la spasticité des jambes puis éventuellement des bras. Et il y a aussi des patients, j'ai des patients auxquels on a mis une pompe au baclofen, où au lieu de donner le médicament par la bouche, on le met directement au niveau du liquide céphalo-rachidien. Donc, on met une espèce de petite pompe qui est connectée après le bas de la colonne vertébrale. Et quand on donne ce produit-là, ben ça permet de relaxer l'espace. Ça permet pas à la personne de marcher si elle est plus capable de marcher, mais ça lui permet au moins de vivre sans avoir l'inconfort et les spasmes persistants au niveau des jambes. Donc, ça améliore quand même pas mal la qualité de vie des patients, et c'est certain que ces patients-là ont besoin de toutes les aides ergonomiques, de physiothérapie et pour les aider à adapter leur domicile. Puis donc, c'est vraiment des patients qui sont traités dans un contexte multidisciplinaire. Et présentement, il y a de la recherche qui se fait donc dans notre groupe de recherche sur la découverte de gènes, mais aussi il y a des recherches qui se font toutes les recherches qui sont faites actuellement sur la sclérose latérale amyotrophique, on peut penser que ça pourra aussi alors s'il y avait des médicaments, disons, qui étaient essayés dans la SLA, on pourrait penser qu'éventuellement ces médicaments-là pourraient être essayés dans la sclérose latérale primaire. Sauf que dans le moment, le seul médicament démontré efficace dans la sclérose latérale amyotrophique, le riluzole, n'est pas officiellement indiqué dans la sclérose latérale primaire. Donc, il y a certains patients peut-être qui le reçoivent, mais il n'y a pas d'indication officielle actuellement de le donner parce que dans les études qu'on a faites sur la SLA, il n'y avait pas là-dedans de patients qui avaient la sclérose latérale primaire, donc ces médicaments-là n'ont pas été testés chez eux. Donc, c'est ça. Puis, je pense que c'est vraiment l'essentiel là, des distinctions. Puis, je pense que ce qui pourrait être utile à ce stade-ci, c'est de répondre à un certain nombre de questions là, que vous avez qui nous permettent d'encore mieux vulgariser le sujet.